Oui, donc peut-être retour pour les ateliers ce matin. Alors d'abord, peut-être de façon à préciser un peu les choses, je crois que, et je m'en excuse, les textes étaient un peu longs. Il aurait fallu que je vous dise une chose, c'est qu'effectivement la lecture n'était pas censée être forcément exhaustive, parce que les entretiens, on peut toujours les lire à travers des extraits. C'est-à-dire, on peut lire, c'est de toute façon des extraits. Voilà. Donc, ce que j'avais demandé ce matin, c'est que à partir de ces lectures, effectivement, voir un peu comment on se positionne autour de la professionnalité enseignante. Et donc, j'ai fait en sorte qu'il y ait croisement entre des entretiens avec un enseignant et des élèves, et des dispositifs mis en place, en tout cas des stratégies mises en place par les enseignants pour essayer de répondre à des problématiques. Donc l'idée, dans un premier temps, c'est qu'on puisse avoir un retour sur les échanges, même si je sais que vous avez dû sans doute être passionné, puisqu'on a terminé à 1h-10 ou moins 5. Il y a sans doute des choses à dire. Et puis après, bon, ça me permettra, moi, tout à l'heure, pour rebondir un petit peu sur ce qui a été dit et revenir un petit peu là-dessus. Donc, qui est-ce qui... Alors, je ne sais pas s'il y a eu des rapporteurs. Peut-être on peut prendre... Il y a eu deux ateliers. Est-ce qu'il veut commencer?
Alors, dans le groupe où j'étais rapporteur, en tout cas, nous avions deux documents. Un document, c'était qui était un entretien avec quelques enseignants qui avait l'air de dater un petit peu. C'est ça, nous ne nous trompons pas. Et un article extrait des cahiers pédagogiques sur les nouvelles prescriptions et les nouvelles pratiques. Donc la question à laquelle on devait répondre, en quoi ces textes nous font réfléchir sur la professionnalité de l'enseignant, l'article portant sur l'accompagnement personnalisé, les discussions, vous imaginez, se sont rapidement centrées uniquement sur ce sujet. Oui, merci. Et les réactions variées ont amené en tout cas quelques remarques sur la posture de l'enseignant. Pendant les séquences d'AP, par exemple, qui doit prendre une posture relationnelle dans les activités. L'AP amène l'enseignant à faire travailler les élèves en groupe sur des sujets qui amènent chacun d'eux à réaliser un travail d'introspection. Son projet professionnel, son projet scolaire, son parcours. Les textes qui ont été lus orientent l'accompagnement personnalisé vers l'ouverture professionnelle et font apparaître trois niveaux d'accompagnement. Le niveau des processus d'apprentissage, le niveau des parcours de formation, le niveau de l'organisation pédagogique. D'ailleurs, ces trois niveaux restent des sujets sensibles. Donc, je prends mes notes, vous m'excusez. Donc, dans les sujets sensibles, les profs sont spécialisés dans une matière et l'AP amène ses enseignants à sortir de leur identité disciplinaire, alors qu'ils n'y sont pas préparés, et cela fait naître un malaise. L'accompagnement et la formation apparaît être une forte demande des enseignants. Nous avions d'ailleurs eu la même discussion hier, et les mêmes problèmes ressortaient. L'accompagnement personnalisé pourrait être un espace possible de négociation pour certains, sur le cœur des apprentissages, une autre façon de faire cours. Au niveau organisationnel, l'accompagnement personnalisé questionne beaucoup les enseignants. Qui fait quoi ou peut faire quoi? Parce que c'est vrai que beaucoup d'enseignants sont amenés à faire de l'accompagnement personnalisé, l'apprennent le jour de la pré-rentrée, sans s'être préparés à cela, dépendent en fait aussi de positionnements qui sont faits par d'autres enseignants. Et il faut faire, le face-à-face élève fait qu'il faut faire du contenu. Alors après, une petite note personnelle, c'est vrai que dans toutes les discussions que l'on a eues, en tout cas aujourd'hui, et que l'on a en général, on se demande surtout que peut faire le prof et que doit-il faire, sans peut-être se poser la question de la réponse aux besoins de l'élève. Voilà, j'espère ne pas avoir trahi vos propos.
Merci. On peut prendre le deuxième atelier.
Donc au niveau des textes, donc il y avait donc des témoignages d'élèves et puis donc deux textes, un sur un projet interdisciplinaire pour réconcilier avec l'écriture et puis un autre sur une action commune EPS anglais. Donc ce que j'ai noté, que on est parti de l'importance du sens, donner du sens au savoir. On avait parlé ce matin. Donc avec le lien avec les situations professionnelles. L'enseignement général qui est souvent perçu par les élèves comme étant utile pour plus tard, mais pas pour maintenant. Ensuite, on a beaucoup parlé de la question de l'interdisciplinarité et du travail en équipe. Un travail en équipe qui ne doit pas simplement être un échange d'informations, mais un vrai travail sur des situations à assumer ensemble. D'où l'intérêt de l'analyse de pratique comme un facteur favorisant ce travail en équipe et cette interdisciplinarité. Ceci étant, on a aussi évoqué les problèmes d'emploi du temps. Le problème du temps, c'est-à-dire ce travail en équipe, mais quand, faire les réunions quand, comment, enfin, etc. On a parlé aussi de l'EGLS comme étant, pouvant être un levier qui favorise effectivement cette interdisciplinarité. Certains ont évoqué du travail sur des situations problèmes. Et donc, l'intérêt de travailler sur des compétences transversales. Ceci étant, il y a aussi le fait qu'il faut quand même garder des cours, ne serait-ce que pour préparer à l'examen. On a noté aussi le risque d'instrumentalisation de l'enseignement général par rapport à l'enseignement professionnel. Puis la nécessité d'une ouverture culturelle, avec aussi des programmes... Quand on voit le programme de lettres histoire en bac pro qui est sur la philosophie des Lumières, c'est pas forcément facile, sauf en électrotechnique, de faire le lien avec l'enseignement professionnel. En tous les cas, la nécessité de bien articuler les deux, notamment peut-être un peu moins pour les CAP, mais davantage pour les bac pro. Le GLS est un aspect de la réforme du bac pro, enseignement général lié à la spécialité. Donc des heures qui sont consacrées à l'enseignement général. Avec autonomie pédagogique de l'établissement, puisqu'on peut mettre n'importe quelle matière d'enseignement général, et donc travailler essentiellement sur des projets en lien avec la filière professionnelle.
D'accord, merci pour cette présentation. Alors, je peux réagir, on a un petit peu de temps, et puis avant les ateliers, peut-être après. De toute façon, je reviendrai sans doute, il y a des choses récurrentes qui reviennent. Et j'y reviendrai un peu tout à l'heure. Alors, peut-être petite précision, comme je le disais ce matin, ce qui était, il me semble, ce qui était important, si vous voulez, c'était ça l'objectif, c'est de montrer comment à partir d'entretiens que l'on peut mener avec des élèves, des enseignants, des personnels d'éducation, parents ou autres, comment à partir des entretiens, on peut aussi peut-être avoir une connaissance un peu différente de ce que nous savons en général dans les contacts ordinaires avec les élèves. Hein. C'est-à-dire que on voit très bien, par exemple, que des questions sur comment fais-tu pour apprendre, comment fais-tu pour te mobiliser, qu'est-ce que c'est qu'apprendre, qu'est-ce que travailler, ça met en évidence aussi des malentendus autour de l'apprentissage, autour du positionnement vis-à-vis du savoir et de l'enseignement. Hein. Bon. La deuxième chose aussi, c'est que on voit bien, alors le choix évidemment il n'est pas arbitraire, que les enseignants, et notamment l'entretien avec cet enseignant, qui était plutôt en fin de parcours, fin de carrière, révèle aussi quelque chose de l'ordre de l'engagement, hein, c'est-à-dire l'ordre du biographique qui intervient, où le rapport aux élèves traduit aussi en partie son propre rapport au savoir, hein. C'est-à-dire par exemple ce lien quand il dit à un moment voilà j'essaie de faire en sorte que les élèves fassent le lien entre l'enseignement professionnel et l'enseignement général, parce que moi-même dans mon parcours, alors c'est pas forcément dans cet extrait, mais je me suis toujours posé cette question, hein. Et il se trouve que c'est quelqu'un qui dans cet établissement scolaire avait l'habitude d'accueillir dans son cours des collègues de lettres histoire, et inversement il allait aussi en classe, donc du coup c'est assez intéressant de voir un peu ce que font les uns et les autres de manière à asseoir quelque chose de, on va dire, de complémentaire. Alors, réaction rapidement à chaud, c'est que je vois ici, par exemple, à travers ces analyses, qu'en fait, comment on se positionne de différentes manières, et différentes échelles, finalement. Hein, première idée, c'est que comment on passe, par exemple, de comment les enseignants s'approprient en s'interrogeant sur... s'approprie un peu cette notion d'accompagnement personnalisé, hein. C'est-à-dire que cette expression même, quand on y réfléchit, l'accompagnement personnalisé peut induire différents types de pratiques, différents types d'interprétations. Qu'est-ce que c'est qu'accompagner un élève? Je vais prendre un exemple qui va faire un peu écho à cette question. Quand on dit, par exemple, à des parents, hein, l'enseignant reçoit les parents, et quand on leur dit « il faut aider votre enfant, il faut l'aider, il faut l'accompagner, concrètement, comment je fais ?» Donc ça veut dire que dès lors qu'il y a une injonction, il faut lui donner un sens aussi. Il n'y a aucune raison pour laquelle on se pose la question du sens des élèves sans qu'on interroge aussi le sens de ce que les enseignants vont mettre en place. Et du coup, le lien entre accompagnement, proximité apparaît. C'est-à-dire l'idée de retrouver, d'instaurer une proximité. À quel moment? Comment? Est-ce qu'on a une temporalité? Est-ce qu'il y a un temps consacré à ce travail? Est-ce que l'accompagnement, c'est seulement pendant ces heures? Est-ce qu'on ne le fait pas régulièrement? Qu'est-ce qui va distinguer l'accompagnement à ce moment-là de l'accompagnement ordinaire? Donc c'est vrai que les enseignants lycées professionnels cherchent systématiquement à instaurer une bonne distance, mais une proximité qui permette aussi de neutraliser ce que j'ai appelé la forme scolaire, de façon à ce qu'elle ne pèse pas forcément sur les élèves. L'autre élément aussi, c'est que cette question du projet professionnel qui apparaît, et je rebondis un peu sur ce qui a été dit ce matin, je ne sais plus par qui, sur la question notamment du projet quand on demande aux élèves à 15 ans d'avoir un projet, hein, 15-16 ans. Le paradoxe de notre système, c'est que nous demandons aux élèves le plus en difficulté d'avoir des projets professionnels. Hein, c'est un peu cette fameuse idée de choisir, il vaut mieux choisir le plus tôt possible. Et pour vous donner un exemple, je ne remets pas en cause, hein, je ne dis pas que les enseignants ou les personnes d'éducation font mal ou font bien. Non, c'est des observations. Les acteurs sont souvent pris dans des enjeux qui les dépassent. Et je vous donne un exemple sur la notion de projet. Je me souviens par exemple dans un collège où un prof de PS qui était prof principal d'une classe me dit, voilà, au mois d'octobre, on a des difficultés avec des élèves parce qu'on n'arrive pas à les placer à la fin de l'année, c'est-à-dire on n'arrive pas à leur trouver une place. Et donc, ils ont été orientés au quatrième tour, c'est-à-dire au mois de septembre. Tu imagines, catastrophe, ils vont être dans des vœux qu'ils n'ont pas demandé. Donc, risque de décrochage, etc. Bon. Alors, il me dit, est-ce que tu ne penses pas que ce serait bien, dès le début de l'année, qu'on se fasse avec ces élèves un travail qui était dans une troisième dites en difficulté, mais c'était un troisième de remédiation, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un travail sur le projet avec eux dès le début de l'année, de manière à ce qu'à la fin de l'année, ils puissent au moins se positionner sur deux projets possibles, deux types de choix d'orientation. Et donc, je me suis dit à ce moment-là, est-ce que le projet de l'élève, est-ce que c'est vraiment son projet, ou est-ce que c'est le projet de l'enseignant qui est en jeu, parce que l'institution demande aux individus de répondre très vite, dans l'urgence, et du coup, il ne faut pas s'étonner, si on impose à quelqu'un quelque chose dans lequel il ne se reconnaît pas, c'est peut-être plus que le projet rassure l'institution scolaire, plus qu'il ne répond aux attentes, notamment des élèves. Donc le travail, évidemment, c'était aussi de déconstruire cette notion de projet. Et donc, l'accompagnement, ce n'est pas seulement le projet professionnel, c'est le projet tout court. Par exemple, le projet d'être en lycée professionnel, le projet d'apprendre, et j'ai tendance à dire, à penser que le projet d'apprendre, c'est au moins aussi important que le projet professionnel, quand on sait aussi que nous avons des élèves qui construisent des projets a posteriori, et c'est le cas notamment de l'élève auquel j'ai surnommé Frédéric, qui se retrouve, vous l'avez vu, dans une formation structure, c'était CAP Chaudronnerie à l'époque, et qui, à partir de cette expérience, parvient à rationaliser son expérience, parce qu'au départ, il voulait faire boucherie, vous avez vu, et qui dit « j'ai fait des stages chez un boucher, ça s'est mal passé, on a perdu mon dossier avec tout cet imaginaire, si vous voulez, sur comment fonctionne l'institution », et qui dit à la fin « ah bah finalement, j'aimerais bien devenir carrossier ». Et on se dit « ah, il y a quand même un effet qui est lié à l'expérience, c'est-à-dire comment les savoirs contribuent à faire émerger de nouveaux projets ». Et je suis persuadé, d'ailleurs, je veux faire une parenthèse, les étudiants que j'ai interrogés l'année dernière dans une enquête, une autre recherche, disent finalement, ils ont fait des études à l'université parce qu'une partie d'entre eux n'ont pas été pris dans les BTS ou DUT. Eh bien, c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas de projet. On s'aperçoit que le fait de découvrir des disciplines et des contenus les ouvre aussi sur d'autres projets. Donc la tendance qu'on a, c'est peut-être d'inverser la proposition et dire que l'accompagnement peut aussi faire émerger des projets à venir, sans que ce soit seulement le projet initial qui détermine la réussite des élèves. Alors, là aussi, qui fait quoi? Question. Dans l'institution scolaire, il y a ce qu'on appelle la division du travail. Et les sociologues ont tendance à dire, la division du travail, ça n'est pas seulement une division technique. Hein, on a toujours tendance à dire, il y a chacun à son rôle. Mais vous savez très bien qu'une partie du travail de l'enseignant est aussi fait par d'autres acteurs, qui peuvent être le CPE, le conseiller d'orientation, peut-être parfois l'assistante sociale, il y a des dimensions qui sont transverses. Mais on est très attaché à cette idée que le rôle doit être bien défini, bien délimité. On a affaire à des individus, à des sujets. Ce n'est pas la même chose que d'avoir affaire. L'élève, on ne le voit pas que seulement en tant qu'élève. en tant qu'apprenant. Si je suis enseignant, je veux dire, l'élève, il est intéressé, c'est le contenu qui détermine. Non, c'est aussi un sujet. Et c'est un peu ce qu'on a entendu ce matin avec cette enseignante qui dit, bah, les élèves ne peuvent pas laisser dehors leurs difficultés. La division n'est pas technique, elle est aussi morale. Je reprends un exemple, c'était un sociologue américain du nom de Hughes qui disait ça, et je trouve c'est tout à fait juste ce qu'il dit. Il dit finalement, on a tendance, dans tous les métiers, à considérer qu'il y a des activités qui sont nobles et des activités qui sont moins nobles. Alors les activités nobles, si je suis enseignant de sociologie à l'université, tendance à dire, ben voilà, je fais cours de sociologie à mes étudiants, c'est comme ça que je consomme mon métier. Quand on me dit « Ah, mais faudra faire un dossier pour l'étudiant s'il veut poursuivre des études. Ah, il y a des choses administratives à signer en ce qui concerne les stages, etc. » Je pourrais très bien dire « Ah, finalement, ça c'est la partie la moins noble de mon activité, puisque je me définis d'abord comme enseignant de sociologie. » Est-ce que c'est quelque chose qui marche? Est-ce que c'est quelque chose de tenable? De mon point de vue, même sur le plan éthique, ça me semble intenable. Donc, la division, elle est morale parce que nous avons souvent tendance à déléguer aux autres ce qui ne correspond pas à notre identité professionnelle. Et c'est un peu l'exemple que je vais vous donner. Il y a peut-être des gens de l'AMGI ici. Eh bien, quand j'étais conseiller d'orientation secondaire, déjà il y a quelques années, je remarquais déjà une certaine tendance, une certaine idée à dire oh, « les problèmes des élèves, ça me regarde pas, il faut les renvoyer aux autres ». Donc on avait tendance à déléguer. Et donc déléguer, ça veut dire aussi ne pas s'approprier une problématique commune. La division, elle est morale, et c'est peut-être aussi l'ambiguïté autour de la notion d'accompagnement. Donc, comment construire quelque chose de transverse sans être toujours dans cette division, répartition. C'est d'ailleurs ce qui explique aussi les difficultés, par exemple, du partenariat ou les difficultés du travail en équipe. Donc ça, c'était pour la question de qui fait quoi. Et enfin, je reprendrai un peu cette remarque sur la donner sens aux apprentissages. C'est quand même une question clé. Et je dois dire ici que ça fait écho un peu à ce qu'on peut observer dans, par exemple, la formation des enseignants. Je me souviens des enseignants à l'UFM qui me disaient, au bout de quelques années, « Ah, finalement, je voyais pas, que j'ai rencontré après quand ils sont rentrés en poste, donc ils sont devenus profs établis, puis ils me disent, ah, finalement, ouais, qu'on avait travaillé des textes, puis à l'époque, ça n'avait pas vraiment fait sens par rapport à mes besoins, parce que c'était un petit peu en décalage. » Et on pourrait presque dire la même chose. Il y a des élèves qui ne voient pas le lien entre leurs préoccupations et le type de contenu. Donc le sens, c'est aussi comment on parvient à donner une signification qui peut être plurielle à des contenus, tout en évitant l'instrumentalisation. Hein, parce que l'instrumentalisation, c'est ce qui est le plus dangereux, parce que ça a tendance à vider les savoirs de leur signification, et on tombe dans le jeu, si vous voulez, de l'utilitarisme, qui fait que nous avons un mal fou à découvrir quel lien on peut faire. Alors vous avez pris l'exemple de siècle des Lumières pour dire finalement qu'est-ce que ça peut avoir qu'on lien. Est-ce qu'on est obligé finalement systématiquement de trouver un lien entre le siècle des Lumières et le métier ou l'activité professionnelle? Est-ce que, par exemple, ça n'arrive pas, vous avez déjà vu, des élèves qui se mobilisent sur des activités de théâtre ou des activités culturelles qui n'ont pas de lien avec la pratique professionnelle et qui pourtant les mobilisent? Donc, l'utilité peut être aussi le danger, le piège dans lequel on peut tomber en tant qu'enseignant. Dire finalement, les choses ne sont quelque chose qu'on peut apprendre qu'à partir du moment où les individus leur donnent une utilité, une signification pratique. Je prends un exemple d'un PLP de électrotechnique qui me disait récemment, on a essayé de regarder dans le référentiel de compétences et référentiel notamment des formations de tout ce qui est enseignement de la physique en électrotechnique, quel lien y a-t-il entre ces référentiels et la pratique du métier? Et on s'est aperçu qu'une bonne partie de ce qu'on apprend n'est pas forcément applicable. Hein. Et donc, c'est aussi ce risque-là qu'on peut avoir. Voilà, c'est des réactions, si vous voulez, un peu à chaud, peut-être par rapport à vos interrogations. Et donc, je redis encore, hein, parce que je travaille beaucoup sur les entretiens et les observations. Alors, c'est vrai que j'ai des entretiens parfois qui font 40 pages. Mais bon, c'est pas 40 pages que je vous ai donné tout à l'heure. Mais bon, c'est effectivement une façon de dire... Bah, peut-être que l'accompagnement des élèves demande sans doute qu'on puisse prendre du temps. Et là, l'occasion a été présentée. Hein. Moi-même, j'ai découvert des choses que j'ignorais, alors même que je côtoyais les élèves tous les jours. Hein. Donc là, on voit la technique peut être aussi source, si vous voulez, de prise de distance par rapport à nos impressions ordinaires.